Un président n'a pas le choix. Il doit être en permanence sur tous les fronts. Tu me fais penser aux acrobates qui font tourner des assiettes sur des bâtons, m'a dit un jour Michel. Al-Qaïda n'allait pas déclarer une trêve parce qu'il y avait une crise financière. Un tremblement de terre dévastateur à Haïti n'allait pas choisir son moment pour éviter que les opérations de secours ne chevauchent un sommet sur la sécurité nucléaire que je devais présider. C'est pourquoi, malgré le stress causé par la catastrophe de Deepwater, je m'efforçais de ne pas me laisser consumer. Au cours des semaines suivant mon déplacement en Louisiane, j'ai gardé un œil attentif sur notre action en m'appuyant sur mes briefings quotidiens détaillés, sans pour autant délaisser les 10 ou 12 autres dossiers urgents qui exigeaient mon attention. J'ai visité une usine à Buffalo pour évoquer la reprise économique et continuer à travailler avec une commission bipartite sur les moyens de stabiliser le déficit américain. Il y a eu les coups de téléphone à Merkel au sujet de la Grèce et à Medvedev pour la ratification du START, une visite officielle du président mexicain Felipe Calderón centrée sur la coopération frontalière et un déjeuner de travail avec le président afghan Hamid Karzai. En plus des habituels points sur les menaces terroristes, des réunions stratégiques avec mon équipe économique et d'une flopée de devoirs protocolaires, j'ai fait passer des entretiens pour le siège qui venait de se libérer à la Cour suprême depuis que le juge John Paul Stevens avait annoncé son départ à la retraite début avril. J'ai jeté mon dévolu sur Elena Kagan, une jeune et brillante avocate générale, ancienne doyenne de la fac de droit de Harvard, qui, tout comme la juge Sotomayor, sortirait relativement indemne des auditions devant le Sénat et serait intronisée quelques mois plus tard. Mais, quel que soit le nombre d'assiettes que je faisais tourner en même temps, tous les jours, mon esprit était ramené à la marée noire de Deepwater. À condition de ne pas trop entrer dans les détails, je pouvais me raconter qu'il y avait un léger progrès. BP était parvenu à colmater la plus petite des trois fuites en envoyant des robots poser une valve sur le tube percé. L'amiral Allen avait apporté un semblant d'ordre aux opérations de nettoyage en surface qui, à la mi-mai, mobilisait 1 millier de navires et presque 20 000 ouvriers de BP, membres des gardes-côtes et de la garde nationale, pêcheurs et volontaires. Valérie effectuait un excellent suivi auprès des gouverneurs des 5 États menacés par la marée noire, à tel point que, malgré leur affiliation politique, la plupart ne disaient que du bien de l'action fédérale. « Je suis devenue super copine avec Bob Riley », m'a dit Valérie avec un sourire, en parlant du gouverneur républicain de l'Alabama. L'unique exception était le gouverneur Jindal. Valérie m'a rapporté que, en plusieurs occasions, il avait demandé l'aide de la Maison-Blanche sur tel ou tel point, avant de publier 10 minutes plus tard un communiqué de presse pour nous reprocher de ne pas nous occuper de la Louisiane. Malgré tout cela, le pétrole continuait à se répandre. Les robots de BP ne pouvaient pas fermer l'obturateur bloqué, ce qui laissait les deux principales ouvertures béantes. Les premières tentatives de la compagnie pour placer un dôme de confinement sur les fuites avaient également échoué à cause des températures glaciales qui règnent à ces profondeurs. Il apparaissait de plus en plus évident que BP ne voyait pas très bien comment s'y prendre, pas davantage que les agences fédérales ordinairement chargées des déversements d'hydrocarbures. « Nous avons l'habitude des naufrages de pétroliers ou des pipelines qui cassent », m'a expliqué l'amiral Allen. « Mais essayer de reboucher un puits à plus d'un kilomètre sous la surface, c'est pratiquement une mission spatiale. » L'analogie était pertinente. C'est pourquoi je me suis tourné vers Stephen Chu. Malgré son titre, le secrétaire à l'énergie n'est pas compétent sur les questions de forage pétrolier. Nous ne risquions toutefois rien à associer à notre réflexion un physicien nobélisé, et c'est pourquoi, après la découverte des fuites sous-marines, nous avons demandé à Chu de briefer l'équipe sur les aspects scientifiques à prendre en compte pour les colmater. Bien que Carole l'ait explicitement prié de faire court, son exposé en salle de crise a été 2 fois plus long que le temps imparti et comportait 30 slides. Presque tous les participants ont décroché après la 5e. Au lieu de gâcher l'intelligence de Chu devant un public comme le nôtre, je lui ai demandé de se rendre à Houston, où l'équipe d'intervention de BP avait installé son camp de base, pour travailler avec les ingénieurs sur une possible solution. Pendant ce temps, le vent de l'opinion commençait à tourner. Les premières semaines, c'était surtout BP qui avait pris les coups. Au-delà de la méfiance généralisée des Américains envers les compagnies pétrolières, le PDG de BP, Tony Hayward, était un bad buzz ambulant, capable de déclarer à la presse que cette fuite représentait une quantité de pétrole assez petite dans un très grand océan, soutenant dans une autre interview qu'il était plus impatient que n'importe qui de voir ce trou rebouché parce que « j'aimerais bien retrouver une vie normale », et incarnant à peu près tous les stéréotypes du patron de multinationales arrogant et déconnecté. Son absence de finesse m'a rappelé que BP, autrefois British Petroleum, était au départ l'Anglo-Persian Oil Company, celle-là même dont le refus de partager les recettes pétrolières avec le gouvernement iranien dans les années 1950 avait mené au coup d'État qui avait ouvert la voie à la révolution islamique. Mais après le 30e jour de crise, l'attention s'était progressivement déplacée sur une possible responsabilité de mon gouvernement dans tout ce bourbier. Les articles de presse et les auditions parlementaires l'attribuaient notamment à plusieurs exemptions des normes de sécurité et recommandations environnementales accordées à BP par le MMS, la sous-agence rattachée au département de l'Intérieur, qui délivrait les licences de forage, collectait les royalties et supervisait les opérations dans les eaux fédérales. Les exemptions octroyées à BP pour le puits Macondo n'avaient rien d'inhabituel. En matière de gestion des risques, le MMS avait tendance à ignorer les recommandations de ses scientifiques et ingénieurs pour s'en remettre aux experts des compagnies, censément plus au fait des dernières procédures et technologies. Bien entendu, c'est exactement de là que venait le problème. Avant mon entrée en fonction, nous avions déjà entendu parler de la connivence du MMS avec les compagnies pétrolières et de sa désinvolture réglementaire, notamment par un scandale qui avait fait beaucoup de bruit vers la fin de la présidence de Bush et qui mêlait pots de vin, drogue et faveurs sexuelles. Et nous avions promis de le réformer. D'ailleurs, dès que Ken Salazar avait pris la main sur le département de l'Intérieur, il s'était empressé de donner un bon coup de balai. Mais il n'avait pas eu le temps ni les moyens nécessaires pour réorganiser le MMS de fond en comble afin de lui permettre de réguler efficacement un secteur d'un tel poids financier et d'une telle complexité technique. Je ne pouvais pas vraiment le lui reprocher. Corriger les pratiques et la culture d'une agence gouvernementale est une tâche difficile, rarement accomplie en quelques mois. Nous avions des problèmes semblables dans les agences affectées au système financier, où des régulateurs surmenés et sous-payés avaient toutes les peines du monde à suivre l'évolution et la sophistication constante des organismes financiers internationaux. Mais cela n'enlevait rien au fait que personne dans mon équipe ne m'avait averti qu'il y avait encore de sérieux problèmes au MMS avant de me recommander de valider le plan proposé par l'Intérieur pour ouvrir de nouvelles zones de forage. Et de toute façon, en pleine crise, personne ne voulait entendre parler d'augmenter le budget des agences fédérales, ni d'augmenter le salaire des fonctionnaires pour améliorer la gestion de ces agences et accroître leur compétitivité salariale de sorte à y attirer les talents. L'opinion voulait seulement savoir qui avait autorisé BP à creuser un trou à 5,5 km sous la surface de l'océan sans savoir comment le reboucher. Et la conclusion, c'était que nous avions laissé faire. Si les interrogations sur le MMS agitaient la presse, l'opinion publique, elle, a vraiment basculé fin mai quand BP a décidé, avec mon approbation dans une optique de transparence, de diffuser en temps réel les images des fuites saisies par ses caméras. Les premiers plans sur l'incendie de Deepwater avaient été largement repris, mais ceux de la nappe elle-même, principalement des plans aériens, de vagues zébrures écarlates sur le bleu vert de l'océan, n'avaient pas réussi à rendre compte du désastre potentiel. Même les vagues lustrées par le pétrole et les boulettes d'hydrocarbures qui s'échouaient sur les côtes de l'Alabama et de la Louisiane ne donnaient pas des images très saisissantes. D'autant que, après des décennies de forage maritime, les eaux du Golfe étaient de toute façon loin d'être cristallines. Ce sont les images sous-marines qui ont changé la donne. Tout à coup, le monde entier a pu voir le pétrole jaillir des décombres en épaisses colonnes. Parfois, il était jaune sulfureux, parfois marron ou noir, en fonction de l'éclairage des caméras. Ces panaches tourbillonnants avaient quelque chose de puissant, menaçant, qui évoquait des émanations infernales. Les chaînes d'information en continu ont commencé à diffuser ces images sans interruption dans un coin de l'écran, assorties d'un compteur rappelant aux téléspectateurs le nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes écoulées depuis le début de la crise. Ces vidéos semblaient corroborer les calculs de nos analystes menés indépendamment de BP. Contrairement aux estimations initiales, les fuites ne laissaient pas échapper 5000 barils par jour, mais entre 4 et 10 fois plus. Pourtant, davantage que ces chiffres terrifiants, ce sont les images sous-marines, ainsi que la soudaine recrudescence des reportages montrant des pélicans couverts de pétrole, qui ont ancré la crise dans les esprits. Des personnes qui jusque-là ne s'intéressaient pas particulièrement à la marée noire voulaient tout à coup savoir pourquoi nous ne faisions rien pour l'arrêter. Chez son dentiste, Salazar s'est retrouvé contraint de regarder ces images sur une télé fixée au plafond, tout en se faisant dévitaliser une dent. Les républicains qualifiaient la marée noire de « Katrina d'Obama » et les démocrates n'ont pas tardé à se joindre à la curée. En premier lieu, James Carville, ancien conseiller de Clinton et Louisianais de toujours, qui, invité à la matinale « Good Morning America », a descendu notre action en flèche et dirigé tout particulièrement ses critiques contre moi. « Il faut que vous veniez ici et que vous preniez les choses en main. Mettez quelqu'un aux manettes et bougez-vous !» Un petit garçon handicapé de 9 ans, qui visitait le bureau ovale grâce à la fondation Make-A-Wish, m'a prévenu que si je n'arrêtais pas rapidement cette fuite, j'allais avoir de gros problèmes politiques. Même Sacha est entré un matin dans la salle de bain pendant que je me rasais pour me demander « Ça y est, papa, t'as bouché le trou ?» À mes yeux, ces noirs tourbillons de pétrole ont fini par symboliser la succession de crises que nous traversions. Ils me paraissaient même presque vivants, des présences malveillantes qui me narguaient. Jusque-là, dans l'exercice de la présidence, j'avais réussi à me raccrocher à la certitude que, quoi qu'il arrive, face aux banques, aux constructeurs automobiles, à la Grèce ou à l'Afghanistan, une réflexion bien menée et des choix intelligents me conduiraient toujours à la solution. Mais dans le cas présent, j'avais beau tanner BP et mon équipe, organiser des réunions en salle de crise et étudier des données et des graphiques comme si nous préparions une guerre, aucune solution ne m'apparaissait. Et du fait de ce sentiment d'impuissance temporaire, une pointe d'amertume a commencé à s'insinuer dans ma voix. Une amertume qui, je le savais, accompagnait le doute. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Ai-je grogné à l'intention de Ram après avoir entendu la tirade de Carville ? Que j'enfile mon putain de costume d'Aquaman et que j'aille donner un coup de clé à Molette ? Le cœur des détracteurs a atteint son paroxysme lors de la conférence de presse du 27 mai à la Maison Blanche, où j'ai essuyé un feu roulant de questions sur la marée noire pendant environ une heure. J'ai énuméré point par point tout ce que nous avions fait depuis l'explosion de la plateforme et décrit les complexités techniques des diverses méthodes mises en œuvre pour boucher le puits. J'ai admis l'existence de problèmes au sein du MMS, ainsi que ma confiance excessive dans la capacité de compagnies comme BP à se prémunir contre les risques. J'ai annoncé la constitution d'une commission nationale pour étudier les dégâts et chercher les moyens de prévenir des accidents futurs. Et j'ai une fois de plus rappelé l'importance d'une démarche de long terme visant à diminuer la dépendance de l'Amérique aux énergies fossiles et polluantes. En lisant la transcription aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me trouve étonnamment calme et convaincant. Peut-être parce que l'écrit ne rend pas compte de mon état émotionnel du moment et est loin de transmettre ce que j'avais réellement envie de dire aux journalistes rassemblés. Que le MMS n'était pas pleinement équipé pour faire son travail, en grande partie parce que depuis 30 ans, une fraction importante de la population adhérait à l'idée républicaine selon laquelle le gouvernement est la cause de tous les problèmes et que nous ferions mieux de laisser faire les entreprises. Que cette fraction de la population élisait des dirigeants qui s'étaient donné pour mission de détricoter les réglementations environnementales, sabrer les budgets des agences, discréditer les fonctionnaires et permettre aux pollueurs industriels de faire tout ce qui leur passait par la tête. Que l'État ne disposait pas de moyens technologiques supérieurs à ceux de BP pour reboucher ce trou, parce que ces technologies auraient coûté trop cher et que les Américains n'aiment pas payer d'impôts, surtout quand il s'agit de parer à des problèmes qui ne se sont pas encore produits. Qu'il était difficile de prendre au sérieux les critiques émanant d'un personnage comme Bobby Jindal, qui avait passé sa carrière à dérouler le tapis rouge au supermajor du pétrole et appuierait par la suite une action en justice de ces mêmes supermajors demandant qu'une cour fédérale lève notre moratoire temporaire sur les forages. Que, si Jindal et tant d'autres élus du Golfe s'intéressaient réellement au bien-être de leurs administrés, ils auraient mieux fait de se remuer pour que leur parti cesse de nier les effets du réchauffement climatique, car les populations du Golfe étaient justement celles qui risquaient le plus de perdre leur maison à cause de la hausse des températures. Et que le seul moyen de garantir efficacement qu'il n'y aurait plus jamais de marée noire semblable à celle-ci était d'arrêter de forer. Mais ça, c'était impossible, car au bout du compte, pour les Américains, les grosses voitures et le prix de l'essence passaient avant la préservation de l'environnement, sauf lorsqu'ils étaient confrontés à une catastrophe. Le reste du temps, il était rare que les médias relaient nos efforts pour sortir des énergies fossiles ou faire adopter la loi sur le climat, car la sensibilisation du public aux politiques énergétiques aurait été synonyme d'ennui et donc de mauvaises audiences. Et si j'étais certain d'une chose, c'était que malgré l'indignation soulevée par le sort des zones humides, des tortues de mer et des pélicans, dans les faits, la majorité voulait juste que le problème disparaisse, que je sorte une solution simple et rapide de mon chapeau pour régler une situation qui couvait depuis des décennies, histoire que tout le monde puisse recommencer à cracher du CO2 et à gaspiller l'énergie sans mauvaise conscience. Je n'ai rien dit de tout cela. À la place, j'ai solennellement pris mes responsabilités et affirmé qu'il me revenait de trouver une solution. Ensuite, j'ai passé un savon aux membres de mon équipe de presse en leur disant que, s'ils avaient mieux expliqué tout ce que nous faisions pour endiguer la marée noire, je n'aurais pas été obligé de passer une heure à faire un numéro de claquette tout en prenant une raclée dans les règles de l'art. Ils ont eu l'air blessés. Un peu plus tard ce soir-là, seul dans la salle des traités, j'ai regretté mes paroles, conscient de leur avoir fait payer à tort ma colère et mon agacement. Ce n'était pas eux que je voulais envoyer au diable, mais ces satanés tourbillons de pétrole. La marée noire a continué à dominer l'actualité pendant 6 semaines. Puisque toutes nos tentatives de colmater le puits échouaient, nous compensions en mettant en scène mon implication personnelle. Je suis retourné 2 fois en Louisiane et j'ai aussi fait des déplacements dans le Mississippi, en Alabama et en Floride. En collaboration avec l'amiral Allen, qui avait accepté de retarder son départ en retraite tant que cette crise ne serait pas résolue, nous sommes parvenus à satisfaire les demandes de tous les gouverneurs, y compris Jindal, avec un projet de berme revu à la baisse. Salazar a dissous le MMS par décret et réparti entre 3 nouvelles agences indépendantes ses compétences en matière de prospection énergétique, normes de sécurité et collecte des recettes. J'ai annoncé la formation d'une commission bipartite chargée d'émettre des recommandations permettant d'éviter de nouvelles catastrophes. J'ai convoqué le gouvernement au grand complet pour évoquer cette crise et rendu une visite déchirante aux familles des 11 membres d'équipage de Deepwater tués dans l'explosion. Je me suis même exprimé, pour la première fois de ma présidence, depuis le bureau ovale. Ce format, qui me présentait assis à mon bureau, avait quelque chose de guindé, désuet, et tout le monde s'est accordé à dire que je n'avais pas été très bon. La multiplication des apparitions et des annonces a eu l'effet escompté en éclipsant, à défaut de les éliminer totalement, les articles de presse négatifs. Mais ce sont 2 actions entreprises plus tôt qui, en dernier ressort, nous ont permis de triompher de cette crise. D'une part, je me suis assuré que BP tiendrait sa promesse de dédommager les tiers affectés par la marée noire. Les procédures de demande d'indemnisation obligent en général les victimes à effectuer toute une gymnastique bureaucratique, voire à prendre un avocat. Le traitement de leur demande peut ensuite durer des années, pendant lesquelles un restaurateur ou un organisateur d'excursion maritime a tout le temps de mettre la clé sous la porte. Nous estimions que, dans le cas présent, l'aide devait parvenir plus rapidement aux victimes. Nous pensions en outre que c'était le moment le plus opportun pour faire pression sur BP. Ses actions plongeaient, son image était au plus bas, le département de la justice avait démarré une enquête pour négligence, et notre moratoire fédéral sur les forages était une source de grande incertitude pour les actionnaires. « Est-ce que j'ai le droit d'y aller à fond pour les faire cracher ?» m'a demandé Ram. « Fais-toi plaisir. » Ram s'est donc mis au boulot, harcelant, amadouant et menaçant comme lui seul en avait le secret. Et le 16 juin, lorsque je me suis assis en face de Tony Hayward et de Karl Henrik Svanberg, le président de BP, dans la salle Roosevelt, ils étaient prêts à agiter le drapeau blanc. Hayward, qui n'a presque pas ouvert la bouche pendant ce rendez-vous, annoncerait sa démission quelques semaines plus tard. Non seulement BP a accepté de dédommager les victimes de la marée noire à hauteur de 20 milliards de dollars, mais il a été convenu que cette somme serait placée sous séquestre et distribuée en toute indépendance par Ken Feinberg, l'avocat qui avait géré le fonds de dédommagement des victimes du 11 septembre et surveillait les plans de rémunération des cadres dirigeants, des banques aidées par le TARP. Ce fonds ne pourrait pas réparer la catastrophe environnementale, mais il allait me permettre de tenir ma promesse que les pêcheurs, les loueurs de bateaux et toutes les personnes ayant subi des pertes serait indemnisé. Ma seconde bonne décision avait été de me tourner vers Stephen Chu. Mon secrétaire à l'énergie, consterné par ses premiers contacts avec les ingénieurs de BP, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en face d'eux, a bientôt commencé à faire la navette entre Houston et Washington, insistant auprès de Tad Allen pour que BP attende que j'ai tout validé avant de faire quoi que ce soit. En un rien de temps, il a recruté une équipe de géophysiciens et d'hydrologues indépendants pour l'assister. Il a obtenu que BP recourt à l'imagerie par rayonnement gamma pour diagnostiquer la panne du bloc obturateur et installe des jauges de pression pour déterminer ce qui se passait réellement à la base du puits. Chu et son équipe ont aussi martelé que toute tentative de colmater le puits devrait être précédée d'un examen minutieux afin d'éviter de provoquer une cascade de fuites souterraines incontrôlables et, dans leur sillage, une catastrophe encore plus grave. Chu et les ingénieurs de BP on finit par se mettre d'accord sur le principe d'un second obturateur, plus petit, un entonnoir, posé sur le premier et qui arrêterait la fuite au moyen d'une série de soupapes. Mais après examen du projet de BP et après avoir fait exécuter des simulations par les supercalculateurs du Laboratoire National de Los Alamos, Chu a conclu qu'il ne fonctionnerait pas et le groupe s'est rapidement remis au travail. Un jour, Axe est passé dans le bureau ovale pour me dire qu'il venait de croiser Chu chez un traiteur, assis devant une assiette pratiquement intacte, en train de dessiner divers modèles d'obturateurs sur sa serviette en papier. Il a voulu essayer de m'expliquer comment ça marchait, m'a dit Axe, et je lui ai répondu que j'avais déjà assez de mal à choisir ce que j'allais prendre pour le déjeuner. Le produit final pesait 75 tonnes pour 10 mètres de haut, et sur demande express de Chou, il comprenait de multiples jauges de pression qui nous fourniraient des données capitales pour mesurer son efficacité. Quelques semaines plus tard, l'entonnoir était en place et prêt à être testé. Le 15 juillet, les ingénieurs de BP ont fermé les soupapes. Elles ont tenu. Pour la première fois depuis 87 jours, Macondo avait cessé de déverser son pétrole. Cerise sur le gâteau, une tempête tropicale se dirigeait vers le site de Macondo. Chou, Tad Allen et le directeur général de BP, Bob Dudley, devaient décider rapidement s'il fallait rouvrir les soupapes avant que les bateaux qui endiguaient le déversement et les employés de BP qui surveillaient l'intégrité de l'entonnoir partent se mettre à l'abri. S'ils avaient mal calculé la pression sous-marine, alors il y avait un risque que l'entonnoir cède et que le plancher océanique se fracture, provoquant des fuites encore plus importantes. Bien sûr, en ouvrant les soupapes, nous allions recommencer à libérer du pétrole dans le golfe, ce qui n'enchantait personne. Après une dernière série de calculs, Chou a déclaré que le jeu en valait la chandelle et que nous devions laisser les soupapes fermées pendant le passage de la tempête. Cette fois encore, l'entonnoir a tenu. Il n'y a pas eu d'explosion de joie à la Maison-Blanche quand nous avons appris la nouvelle, juste un immense soulagement. Il faudrait encore 2 à 3 mois de procédures techniques avant que BP ne déclare Macondo définitivement fermé et le nettoyage allait se poursuivre jusqu'à la fin de l'été. L'interdiction de pêcher a été progressivement levée et les produits du golfe déclarés propres à la consommation. Les plages ont rouvert et, en août, j'ai emmené ma famille en Floride, à Panama City Beach, pour 2 jours de vacances afin de relancer le tourisme dans la région. Une photo de ce voyage, prise par Pete Souza et diffusée par la Maison-Blanche, nous montre Sacha et moi en train de nous baigner pour signaler aux Américains que les eaux du golfe étaient sûres. Malia ne figure pas sur la photo car elle était alors en camp de vacances. Quant à Michelle, ainsi qu'elle me l'avait expliqué peu après mon élection, un de mes grands objectifs de First Lady, c'est de ne jamais être photographié en maillot de bain. Par bien des aspects, nous avions évité le pire, et au cours des mois suivants, même nos détracteurs, comme James Carville, finiraient par admettre que notre action aurait mérité d'être davantage saluée pour son efficacité. Le littoral et les plages du Golfe avaient subi moins de dommages que prévu, et dès l'année suivante, la région allait connaître la meilleure saison touristique de son histoire. Nous avons lancé un projet de remise en état de la côte, financé par les pénalités additionnelles imposées à BP, qui a permis aux autorités locales et fédérales de s'attaquer aux dégradations environnementales qui avaient commencé bien avant l'explosion. Poussé par les tribunaux fédéraux, BP a même versé des dommages et intérêts en supplément du fonds de 20 milliards de dollars. Et même si le rapport préliminaire de la commission spéciale que j'avais créée a épinglé le MMS pour sa mauvaise surveillance des activités de BP sur Macondo, ainsi que notre incapacité à évaluer l'ampleur des fuites juste après l'explosion, une fois l'automne venu, la presse et l'opinion étaient passées à autre chose. Pourtant, je restais hanté par les images de ces panaches de pétrole jaillissant d'une terre fendue dans les profondeurs spectrales de la mer. Des experts gouvernementaux m'ont expliqué qu'il nous faudrait des années pour prendre toute la mesure de la marée noire de Deepwater. Les estimations les plus fiables concluaient que Macondo avait libéré au moins 4 millions de barils dans la mer, dont les 2/3 au moins avaient brûlé, avaient été captés ou encore dispersés. Ce qu'était devenu le reste, les dégâts qu'il avait infligés à la faune et à la flore, la proportion qui descendrait se poser sur le plancher océanique et les effets durables sur l'économie du Golfe, tout cela, nous ne le saurions pas avant des années. Ce qui était très clair en revanche, c'était l'impact politique de cette marée noire. La crise derrière nous et les élections de mi-mandat se profilant à l'horizon, nous nous sentions prêts à communiquer un optimisme prudent, à déclarer que le pays entrait enfin dans une nouvelle phase et à mettre l'accent sur le travail accompli depuis 16 mois pour améliorer concrètement la vie des Américains. Mais tout ce que voyaient les électeurs, c'était qu'une nouvelle calamité s'était abattue et que le gouvernement avait été incapable d'y faire face. J'ai demandé à Axe quelle chance il donnait aux démocrates de conserver le contrôle de la Chambre des représentants. Il m'a regardé comme si je me fichais de lui. « On est foutus », m'a-t-il répondu.